À l'occasion de la disparition de son fondateur, Radio Collège rend hommage à Antoine Anton, disparu il y a quelques jours, avec la rediffusion d'une émission spéciale sur le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie qu'il avait réalisé en compagnie de Ben Dequiche dans l'émission Planète Black Music, une émission que nous vous proposons en format raccourci, réalisée le 1er avril 2012.
Radio Collège. Bonsoir, vous êtes sur le vous l'avez entendu, hein. C'est 95.9 de radio, sur Radio Collège, dans Radio Collège. Et dedans Radio Collège, il y a une émission qui s'appelle Planet Black Music. C'est pas une bêtise, c'est le 1er avril, mais c'est pas un 1er avril. Bonsoir Thierry.
Salut Ben.
Ah Thierry, il a tiré sur le micro, il s'est fait surprendre. Et puis on a un invité très très spécial ce soir, qui s'appelle Antoine Anton. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Ben.
Qui est pas n'importe qui quand même, qui est le président et le fondateur de Radio Collège, c'est ça?
C'est ça, oui.
1981.
En gros, 81, démarrage du projet, 85, autorisation officielle d'émettre.
Voilà, donc c'est... elle fait du temps hein, quand même entre 80 et 80. J'espère
oui,
que les promesses politiques ne sont pas toujours comme ça.
Non, mais bon, c'était une période un petit peu, rien n'était en place. 80, oui. C'est l'explosion des radios libres. Oui. Ensuite, la législation s'est mise en place et donc il a fallu un certain temps.
D'accord, ouais, d'accord. Alors, cette émission, Antoine est invité dans Planet Black Music parce que c'est un peu spécial. Thierry, on a décidé de faire une émission sur les 50 années de la guerre d'Algérie, donc l'indépendance. Et puis, bon, le 19 mars, qui est passé évidemment, mais sans la signature des accords d'Évian. Et Antoine, toi, tu viens du pays, et puis c'est pas sur une seule génération, Antoine, c'est ça?
Ah oui, moi je suis né en Algérie, de parents oui. Nés en Algérie, de grands-parents nés en Algérie, ouais. Et j'y ai vécu jusqu'à l'indépendance et oui. Même après.
Voilà, justement, donc ça c'est quand même important. Donc ça veut dire, bon, trois générations, pratiquement quatre avec la tienne, nées en Algérie, donc c'est vraiment très important. Est-ce que tu connais les origines, le fait que tes arrière-arrière-parents aient décidé d'aller en Algérie?
J'ai pas fait de recherche très poussée, mais enfin, les origines de l'immigration en Algérie, donc les origines de ma famille sont à peu près les mêmes. J'ai un côté qui vient d'Alsace.
D'accord.
Donc c'est l'immigration due à la guerre de 70 où l'Allemagne a occupé l'Alsace, donc il y a eu un départ des Alsaciens vers l'Algérie.
D'accord.
J'ai de l'autre côté des racines espagnoles, qui ça, les racines espagnoles, c'est plus de l'immigration due à ce qu'on a, même ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est de l'immigration due à la pauvreté, à la misère, donc les gens qui traversent, qui traversent l'Espagne, qui traversent un petit bout de Méditerranée, qui vont dans le Maghreb pour y mieux vivre.
D'accord. Alors beaucoup de gens, d'hommes et de femmes, qui sont à vocation agricole au départ, c'est cela?
Oui, parce qu'essentiellement au départ, la conquête de l'Algérie 1830, il y a des terres et on propose donc aux émigrants, on leur propose l'accessibilité à des terres qui ont été conquises, mais qui vont être distribuées, qui vont être comme la colonisation, le départ de tout ce malentendu qui a duré 130 ans.
Voilà, donc en fait, succinctement, ce que tu dis, c'est que d'abord il y a la conquête, et puis après il y a la colonisation. La colonisation,
tout
donc là c'est ça
bon.
Qu'on va voir la répartition.
Oui.
On va se faire un petit peu de musique, un petit peu,
bien
et puis
sûr.
Tranquille. Alors, un peu spécial pour toi, hein, c'est un album de JMB que moi-même j'ai produit, qui sont des jeunes originaires du même quartier que toi, de Saint-Pierre. Donc quand même très important. Voilà, c'est ces jeunes rappeurs, musique actuelle, qui rentrent dans le cadre évidemment de Planet Back Music. Et que
j'ai eu le plaisir de rencontrer et d'accompagner.
Tout à fait, absolument. Radio Collège, entre autres, mais toi aussi personnellement. Voilà.
Les pieds noirs et les noirs qui ont donné liberté à la France et son histoire ont combattu l'idéologie nazie avant que tu sois ici Sarkozy. Importé. Tous mes frères, nos pères, nos grands-pères divisés au cimetière. Puis déportés, les juifs importés, les algériens pour les fils de Pétain. C'est ça la France à laquelle je pense, tous derrière un général, tous tirailleurs. Liberté qui nous l'a donné, Moujahidine coulé leur sang sur le sol français.
Radio Collège rend hommage à son fondateur, Antoine Anton, disparu récemment avec la rediffusion de l'émission Planète Black Music du 1er avril 2012.
Toute cette boucherie, elle sert le prix du mépris.
Voilà, donc Antoine est en train de feuilleter un livret militaire de l'époque, 1939, donc de la Grande Guerre. Alors on va pas passer tout de suite comme ça la Grande Guerre, mais il va se passer que bon, tout doucement les gens vont s'installer au pays, et puis cette population devient algérienne en fait, et elle va fréquenter aussi les Algériens. Alors est-ce qu'elle va bien les fréquenter, j'en sais rien, ça tu peux nous le dire quand même. En plus toi t'habitais dans une ville, une grande
oui,
ville,
oui, c'est ce qui n'était pas... En fait moi le témoignage que je peux apporter, c'est un témoignage de mon expérience. Donc quand on fait référence à la colonisation et à ce qui s'est passé après, c'est des choses que l'on a apprises mal d'abord à l'école. Je me souviens par exemple que en cours d'histoire, les cours d'histoire à l'école élémentaire se faisaient devant des grandes gravures
oui.
illustrées. Et il y avait notamment la conquête de l'Algérie, et il y avait notamment la prise de la Smala par Abdelkader, ouais. par le général Bugeaud,
ouais.
qui à l'école nous était présenté comme, ouais. comme une victoire.
Oui, tout à fait. Hein,
c'était
oui.
une victoire de la civilisation. Sur,
ouais.
Bon, on a appris par la suite que la réalité était
c'est
un peu différente.
Ouais.
Donc mon témoignage, c'est un témoignage de vécu, mais... ce que je sais de la guerre d'Algérie et de l'Algérie, je l'ai appris plus tard, par
oui.
la suite, et parce que c'est un sujet qui m'a passionné.
Oui, mais évidemment. Et puis, bon, quand même, il faut savoir qu'effectivement, non seulement dans les écoles, alors moi, j'étais de l'autre côté de la barrière, hein. Moi, je suis né en France, avant l'indépendance, par exemple, hein, de parents algériens, et en même temps, c'est vrai que l'école, c'était pas toujours facile, on comprenait pas vraiment. En tout cas, on se posait ces questions-là, c'était assez particulier, mais bon, en tout cas, l'école, elle a pas toujours fait son rôle, mais c'est vrai que bon, les témoignages au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus cher. Parce que les témoignages comme le tien, on se rend compte que tous les gens qui ont parti, parce qu'il y a eu, on va en parler, il y a eu cette guerre, et il y a eu des appelés, des milliers d'appelés des soldats du contingent. C'est cela aussi avec qui il va falloir qu'on parle, enfin dont on parlera, et qui commence à parler parce que il y a eu une chape de plomb. Alors, elle n'a pas été organisée, mais cette chape de plomb, elle s'est faite toute seule. Les gens n'osaient pas en parler, ne voulaient pas en parler.
Oui, effectivement, je pense que d'ailleurs c'est un phénomène que l'on rencontre fréquemment dans notre histoire. Hein. Après 39-45, les gens ont très peu parlé de l'occupation, de la résistance et de ce qu'il y avait peut-être de pas très beau,
oui.
pas très facile à évoquer. C'est vrai qu'il y a une chape de plomb. Alors, je pense essentiellement pour deux raisons. Les gens qui y ont participé, tu parles à ces centaines de milliers de militaires du contingent qui étaient essentiellement d'origine métropolitaine,
comme on dit,
et qui, en gros, n'avaient pas grand-chose à voir et à faire dans cette guerre. On les a d'un seul coup pris de chez eux,
oui.
on les a soi-disant envoyés pour des raisons de maintien de l'ordre, parce que à ce moment-là, on ne parlait pas de guerre d'Algérie, mais d'événements d'Algérie,
oui.
et on les a envoyés au casse-pipe, ou bien faire ce qui se passe un peu dans toutes les guerres, des choses qui sont pas très humaines ou pas très difficiles à digérer. Donc je comprends qu'à la fois on n'ait pas envie quand on rentre d'en parler.
Oui.
Et il y a aussi un autre phénomène, c'est que les gens qui n'y ont pas participé n'ont pas très envie d'entendre les
oui,
témoignages.
Oui, d'accord,
c'est ce qu'on
oui,
a constaté chaque période de guerre. Mm-hmm. Les gens n'ont pas très envie d'entendre, ils ont envie de tourner la page. Donc finalement, une espèce de chape de plomb, je dirais, qui s'installe au niveau des participants, mais il y a aussi une chape de plomb qui s'installe au niveau, je dirais, institutionnel.
Mm-hmm.
C'est-à-dire
oui,
que au niveau de l'État, au niveau
oui.
du gouvernement, on tourne la page. On
n'a
pas non plus envie de revenir là-dessus.
Mm-hmm. Ouais. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des gros problèmes de documents. Alors, une partie de documents sont partis, d'autres on ne sait pas trop où ils sont, d'autres n'ont pas récupéré. Moi, je voulais juste poser une question comme ça, tout de suite, d'emblée. Comment vivent, à ton époque, époque où tu peux assimiler, voir et regarder, vivent les Algériens dans une grande ville ? Où ils sont? Est-ce qu'ils vivent dans les quartiers? Où ils vivent?
Oh, c'est très simple. Effectivement, je suis originaire d'Oran, donc tu as parlé de, enfin, tu l'as dit au début. Oran est une, je crois que la seule ville qui, à cette époque-là, est à dominante européenne. Oui. Il y a plus d'Européens que de, d'Algériens d'origine. Et c'est très simple. On vit. Je ne vais pas dire ensemble, on vit à côté les uns des autres, on ne se mélange pas.
D'accord.
Il y a des quartiers européens,
très bien.
Il y a des quartiers musulmans qu'on dénomme, Oran, on appelait ça le village d'Aix,
c'était simplement tout à fait, la
connotation. C'est, pour nous, ça n'avait pas de connotation,
tout à fait,
mais ça s'appelait comme ça.
Ouais, je sais.
Et donc, à l'école, il y avait... quelques Algériens, mais très peu. À l'école primaire, on en voyait un peu plus, mais dès le collège, le lycée, ça devenait vraiment une minorité. alors que la proportion population algérienne et population européenne était totalement inverse. À partir de la sixième, on avait 3-4 camarades dans la classe. Et quand j'ai dit 3-4... Voilà, donc on vivait à côté. On vivait ensemble, sans rien partager.
D'accord.
Sauf le pays.
Ouais. Mais les populations se connaissaient. Par exemple, les chrétiens, les juifs, musulmans, ils se connaissaient bien.
Oui.
Ils connaissaient leurs coutumes, en tout cas. Ils ont les coutumes de chacun.
Oui, on se connaissait, ça c'est sûr. Et puis, effectivement, on parle des musulmans, mais il y avait effectivement, comme il y avait le quartier, les quartiers réservés, ou occupés par les musulmans, il y avait le quartier juif.
Tout à fait.
Bon, comme on en rencontre dans toutes les villes. Mais là, c'est pareil, moi, le quartier juif, je me souviens que quand j'y allais, c'était un petit peu un pays, c'était une zone un peu étrangère, des gens bizarrement vêtus, des mœurs un peu particulières. Donc, on cohabitait sans... vraiment partagé.
D'accord, ok. Donc ça, c'est... Alors justement, on voit aujourd'hui, il y a eu... Alors, il y a eu cet accord Crémieux, là, c'est particulier quand même, Explique-nous un peu ce que c'est, on parle de la communauté juive, c'est
important. Là, je suis pas un historien, donc je... Ce que j'en sais, c'est effectivement cette communauté, maintenant, on parle au terme de communauté, ça a du bon, et parfois, parfois ça a des connotations un peu péjoratives.
Ouais.
Les Juifs, ils ont toujours été au Maghreb, au Machrek. Ils étaient là
avant tout le monde.
Pas avant tout le monde.
Non,
avant la colonisation.
Oui.
Ils étaient là, ils vivaient en harmonie, ils vivaient, cohabitaient. Mais ils n'étaient pas considérés comme des Français. Donc il y a eu quand même, dans l'itinéraire politique de l'Algérie et de leurs représentants, il y a eu quand même des gens qui se sont posés des questions et qui ont essayé d'améliorer un petit peu les choses. D'où certaines propositions, comme le décret Crémieux, qui visait à faire et à intégrer, si je me trompe pas, à intégrer un peu plus la fameuse communauté juive dans le... Mais bon, encore une fois, toutes les tentatives progressistes en Algérie depuis très longtemps ont été vouées à l'échec par les intérêts de quelques-uns qui savent comment faire pour sauvegarder
un écrivain juif dit que lui, sa famille, on peut dire qu'on considérait qu'ils étaient en Algérie à partir de 1736. C'est ce qu'on connaît, en tout cas de ce que, et on le croit puisque c'est quelqu'un qui connaît très bien l'Algérie et qui est né et qui a vécu.
Oui, d'ailleurs, moi j'ai une anecdote, c'est du vécu, enfin ce que je raconte c'est du vécu.
C'est ce qu'on veut.
Il y avait donc, je parlais d'Oran et du quartier juif, mais là, bon, le quartier juif était encore relativement européanisé.
Oui, tout à fait.
Mais ma grande surprise, mon premier poste d'enseignant, ça a été, j'ai été envoyé dans une petite... un petit village aux confins des hauts plateaux, presque à la limite du Sahara. Et là, il y avait une communauté juive.
Ouais.
Mais j'étais incapable de faire la différence entre les juifs et les arabes.
Ouais.
Ils avaient Ils parlaient de la même façon, ils étaient vêtus de la même façon, ils vaquaient, alors je connaissais de la même façon, et je découvrais un monde que je n'avais jamais vu.
Ah ouais, très bien.
Donc on voyait bien que c'était une...
Oui, il y avait une application depuis longtemps déjà dans sur le territoire. On va continuer un peu de musique tranquillou, ça.
Radio Collège rend hommage à Antoine Anton suite à la disparition de celui-ci, fondateur de Radio Collège, avec la rediffusion d'une émission Planète Black Music du 1er avril 2012 à propos du cinquantenaire de l'indépendance algérienne.
Voilà, donc on continue hein, avec Antoine. Antoine, c'est une spéciale un peu comme ça. Ça fait plaisir. Voilà. En plus, bon, c'est d'actualité. On va rester dans l'actualité. Moi, j'aime beaucoup en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe après, avant l'indépendance, le 19 mars, qu'est-ce qui se passe? Il y a des Algériens, il y a des Français qui vont travailler, qui vont aussi ce qu'on appelait les porteurs de valises. Il y a une communauté française qui va militer, qui est pour l'indépendance algérienne, et puis il y en a d'autres qui sont pas pour l'indépendance algérienne. Et dans ces accords-là, est-ce que les Français, les pieds noirs qui étaient là-bas, puisqu'on les appelle comme ça quand ils arrivent en France, on les a jamais appelés quand ils étaient comme en Algérie, pieds noirs, quand ils viennent en France, est-ce que il n'y avait pas la possibilité dans ces accords d'Évian à ce que cette population puisse rester en Algérie, malgré, pour l'indépendance, rester et devenir algérien, puisqu'ils étaient déjà algériens de 3, 4, 5 générations, si on considère le droit du sol, hein, qu'est-ce qui se passe?
Oui, non, on fait un grand saut là. Et,
oui,
on
c'est
fait
vrai.
Un grand saut, on arrive aux accords d'Évian et à l'exode, ce qu'on appelait les pieds noirs. Mmh. Ça va être difficile de faire l'impasse sur un certain nombre d'événements. Mais enfin, pour répondre directement à ta question, de 54, moi j'ai 12 ans, donc en 54 quand débute la guerre d'indépendance en Algérie, en sachant très bien que depuis 1830, même si nous ne le savions pas à cette époque-là, il y a eu de façon sporadique et régulière la remise en question de la colonisation. Ça, on ne l'apprenait pas à l'école,
on
occultait certains événements, mais la colonisation a été vécue comme une occupation.
Tout à fait, hein. Oui, tout à fait.
Bon, en 130 ans, bien sûr, des liens se nouent, des gens s'installent, mais j'appelle ça le péché originel. Mmh. Hein, péché originel, bon, c'était une époque, effectivement, historiquement, pour des problèmes de géopolitique et stratégique. Mmh. Bon, il y avait tous les pays européens sont allés coloniser, qui est un bout du Maghreb, qui est un bout de l'Afrique. Bon, moi je dis c'est le péché originel, c'est-à-dire qu'à partir de là, à partir du moment où on va chez les gens et qu'on leur impose par la force un certain type de régime, c'est de l'occupation, et naturellement, les gens la subissent et se révoltent.
Il y a un risque, c'est le retour de bâton.
Oui, mais bien entendu. Donc on arrive après de multiples événements où il y a toujours eu cette revendication des Algériens à reposséder ceux dont on les avait dépossédés. On arrive à 54 où démarre ce qu'on appelait les événements, qui est la guerre d'Algérie, c'est-à-dire des attentats, puisque c'est une guerre révolutionnaire et qu'il faut d'abord s'imposer. Et donc c'est une guerre révolutionnaire qui va durer jusqu'en 62. Mm-hmm. Donc il y a 8 ans pendant lesquels se passent des choses qui vont progressivement amener la rupture, une rupture définitive entre des gens comme moi qui sont nés en Algérie, qui sont là-bas depuis plusieurs générations, et qui ont envie de continuer l'aventure. Nous, on n'envisage pas de rentrer en France.
Oui, tout à fait.
Des événements successifs à la fois de la part des Algériens, ouais. de l'armée française, des pieds noirs qui se radicalisent ouais. hein, et qui vont avoir, vont créer les pieds noirs et l'armée, l'organisation de l'armée secrète ouais. qui va aussi
terroriser,
organiser, ouais. terroriser tous les progressistes algériens, ouais, plastiquer, tuer.
Jusqu'en France, hein, ça se passe en France aussi.
Sûr,
hein.
Ça se passe en France. Et donc, jusqu'au dernier événement, moi je veux te dire que le 5 juillet, je suis en Algérie. Le 5 juillet 1962 est en Algérie, toute ma famille est en Algérie. Personne n'a envisagé de partir. Il y a, comme on peut s'y attendre, comme on peut le déplorer, à Oran, un retour de bâton, c'est-à-dire que le 5 juillet, fête de l'indépendance, les Algériens descendent dans la ville européenne et bon, il y a un retour, il y a des morts, il y a des ce qui provoque
des violences,
un mouvement de, je dirais, de terreur et tout le monde, après le 5 juillet, même ceux qui voulaient qui envisageaient de rester, rentrent en France. Nous, on rentre en France. Ma famille rentre en France. On n'y est pas resté longtemps, mais on est rentré. Parce que la rupture était consommée.
Puis c'était violent. C'était violent, donc c'est quand même assez particulier. Mais je me souviens quand même, pour revenir un peu en arrière, d'avoir discuté avec mon père, me disant que lui, en 1945, il venait de se taper Monte Cassino, les Ardennes, bataille de la Harde et compagnie. Donc, et il se retrouve consigné dans les casernes. Alors, tout le monde fait la teuf. Mais lui et ses confrères là, et les pieds noirs qui étaient avec lui, parce qu'il y avait des pieds noirs qui étaient avec lui, évidemment, d'origine française ou espagnole, il est parti. Donc il se retrouve consigné dans les casernes parce qu'il se passe ces événements de Sétif.
Oui, absolument.
Voilà. Donc alors après, bon, il y a ces choses. Tous ces gens qui sont rentrés ont commencé dès 45, 46, 47 à organiser. Les militaires, parce qu'ils avaient cette expérience quand même de l'armée. Ils sortaient d'une guerre, de 5 ans de guerre, plus 2 années de service national. Ils étaient à 7 ans de. Ils étaient très très aguerris en fait. Hein,
tout à fait. Et tu oublies la période que beaucoup d'Algériens, donc qui à ce moment-là étaient donc des Français musulmans, comme on a pu le dire, et qui étaient dans l'armée française, et qui se sont battus. Et on a eu souvent l'occasion en 14-18, en 39. 45, mais ils sont également allés en Indochine.
Tout à fait, absolument.
Et je dirais que les principes de la guerre révolutionnaire, c'est en Indochine qu'ils les ont,
ont intégrés. C'est vrai, c'est la vérité.
Et donc, à partir du mois, ils vont commencer à s'organiser pour créer le. Ils sont outillés.
Ils ont des contacts politiques aussi. Des contacts, effectivement, avec les pays de l'Est. Et puis, notamment, mais quand même, en 45, ils sont déjà mûr, parce que je me souviens que mon frère, quand ils sont venus le voir pour lui demander s'il voulait faire l'Indochine, il leur a dit, moi, libérer un pays, d'accord, mais aller conquérir un pays, hors de question. Voilà, il a refusé, il avait le choix de refuser. Donc,
oui, et puis encore une fois, je ne vois pas en vertu en vertu de quel principe on aurait pu. Quand on est opprimé, brimé, pas reconnu, des gens qui viennent comme ton père, qui viennent de se battre, et dans des conditions, les troupes, du Maghreb, elles ont été en première ligne partout.
Oui, tout à fait,
Et bon, dans des conditions. À partir d'un certain moment, l'injustice est trop flagrante, trop criante pour qu'on puisse adhérer à un projet.
C'est ça. Il ne comprenait pas. Autant il avait super bien analysé le fait que parce que bon, c'était pas un intellectuel et il avait c'était quelqu'un de simple, il avait très bien analysé le fait qu'il fallait défendre la patrie, parce que c'est comme ça qu'aussi qu'on recrute, c'est comme ça qu'on appelle à la mobilisation. Il avait super bien analysé ça, c'était très facile pour lui de comprendre. Et puis quand il est arrivé, il a bien vu ce qui se passait, c'était vraiment une occupation avec des combats difficiles, comme tu dis, il montait au front avec un fusil Lebel à un coup, avant d'avoir du matériel après, des Rangers quand est arrivée l'armée américaine. Mais au tout début, ils se tapent le passage du Rhin avec des guêtres. Imaginons ce qu'ils ont dû vivre pour des gens qui n'avaient jamais vu la neige. Ils se sont retrouvés dans des conditions terribles.
Des vacances.
Voilà. Donc c'est on va se faire un peu de musique tranquille et puis on revient.
rediffusion de l'émission Planète Black Music du 1er avril 2012 en compagnie de Antoine Anton à l'occasion de sa disparition il y a quelques jours. Radio Collège rend hommage à son fondateur.
Voilà, donc on disait, hein, c'est ce que tu disais, c'est TIF, c'est aussi, bon, c'est l'armée de De Gaulle, hein, c'est l'armée française. Hein, voilà. Justement, cette incompréhension pour les militaires algériens, c'est que cette même armée avec laquelle ils ont été frères de combat, en fait, voilà, il se passe quelque chose et on ne sait pas trop quoi, et personne n'ose dire quoi que ce soit.
Hein. Oui, qui plus est, enfin, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, quand De Gaulle va constituer l'armée à partir de l'Angleterre, il va dans les colonies, donc il va constituer une armée coloniale.
Oui, c'est là où il s'appuie.
Et il fait une promesse, il y a des accords. Oui. Il y a des accords, ce sont les accords d'Anfa, où il promet effectivement la décolonisation. Alors, peut-être pas dans ces termes-là.
Oui, d'accord, oui, c'est l'autodétermination.
Donc en 45, de façon tout à fait légitime, en Algérie comme d'ailleurs, mais avec sans doute moins de violence, certains Algériens disent, voilà, on sort avec nos drapeaux algériens parce que vous nous l'avez promis. Ouais, on s'est battu pour vous, maintenant vous tenez vos promesses. Ouais, en gros, c'est ça.
Oui, non, mais c'est pas en gros.
Et puis, sous De Gaulle, il y a une répression qu'on n'a jamais chiffrée. Bon, comme d'habitude, une bataille des chiffres, mais enfin, quand on entend parler de 40 à 45 000 morts, même s'il y en a un peu moins, donc il y a une répression sanglante qui elle va provoquer
l'organisation, c'est très intéressant de ce que tu viens de dire. Ça, par exemple, c'est de savoir que c'est vrai que bon, on connaît tous l'histoire en Algérie, c'est pareil, du type qui sort, du gamin là, des jeunesses des jeunesses scouts algériens qui sort avec ce drapeau algérien incitif. Mais bon, c'est ce que tu viens de dire, c'est juste, et puis c'est bien de le resituer dans l'histoire, c'est qu'il y a des promesses et que bon, la réaction elle se fait uniquement, peut-être, on peut penser, moi je suis pas, on n'est pas historien, moi encore moins, mais de dire bon bah voilà, la promesse c'est ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est important que tu le situes, parce que dans l'histoire on parle aujourd'hui les historiens parlent très franchement de cet IF, mais on dit pas ça, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de dire que il y a des promesses qui sont faites avant la guerre de 39-40, De Gaulle, puisque va constituer son armée, sa base dans les colonies, donc et c'est vrai qu'il y a une armée qui va se lever, voilà, hein. Alors qu'on sait qu'ici il y a des choses qui sont plus difficiles, notamment au régime de Vichy, hein. Donc c'est voilà. Donc c'était la petite parenthèse quand même importante, puisque c'est bien que tu le soulignes, même moi tu vois, tu m'apprends ça quand même, tu vois, de savoir, bon, c'est vrai que c'est une réflexion qu'on aurait pu se faire, et je me suis jamais faite vraiment, mais c'est vrai que, parce qu'il faut aller redescendre et penser, voilà, ça c'est la différence entre quelqu'un qui vit en Algérie comme toi, qui a vécu en Algérie, et moi qui suis né à La Rochelle et qui ai vécu à La Rochelle et tout, mais c'est voilà, c'est de dire, il y a eu ça avant en 1900, avant 39, la mobilisation, et puis en même temps c'est qu'un geste c'est pas une revendication, en fait, c'est juste un geste comme ça, peut-être, probablement, hein, de joie, voilà.
Il y a peut-être eu autre chose, oui. Mais bon, à partir d'un certain moment, il est difficile de démêler. Il y a peut-être eu aussi des manifestations un peu plus violentes, mais bon, encore une fois, la justification elle est là. Nous demandons ce que vous nous avez promis,
D'autant plus que De Gaulle est coutumier du fait, quand même, à la fin. je vous ai compris. Non, mais c'est la vérité, il est coutumier du fait, il s'est passé quelque chose là aussi. Donc, on peut effectivement. On peut déjà avoir cette réflexion de penser qu'il s'est passé quelque chose avant la mobilisation de 39, voilà, de sa part en tout cas. Donc l'Algérie va bouger, il y a ce régime de terreur qui est des deux côtés, il y a ce règlement avec les harkis qui est terrible, parce que abandonné par la France, mais en même temps exécuté par les gens du FLN, et peut-être même des gens qui n'étaient pas forcément au FLN, parce que ça, moi, je l'ai découvert après aussi, hein, que les mecs sont rentrés comme ça, qui sont revendiqués du FLN et qui n'avaient rien fait, hein.
Oui, c'est vrai que tu parlais archives. Là encore, il faudrait avoir quelques explications. Mais, mais je pense qu'à l'heure actuelle, et notamment comme on en parlait hors micro cette année, il y a eu énormément d'excellents documents qui ont pu justement éclairer un petit peu toutes ces choses qui pouvaient paraître un peu brumeuses.
Oui.
C'est vrai que les harkis, c'est vraiment quelque chose... viscéralement, c'est insupportable.
Quelles
que soient les raisons de l'engagement ces gens-là. Certains l'ont fait de façon sincère.
Complètement.
Il y a eu des Algériens qui ont cru en la France.
Bah, évidemment, bien sûr. C'est sûr.
Qu'ils l'aient fait pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'il fallait survivre. Qu'ils l'aient fait parce qu'à un certain moment, lors de la guerre d'Algérie, l'armée française a employé, elle aussi, tout son savoir-faire et a fini par couper la population algérienne des maquis. D'ailleurs, militairement, les maquis en 60... Enfin, au moment des accords des déviants, ils sont exsangues.
C'est vrai, c'est la vérité.
Les deux frontières, il y a des barbelés. Et l'armée algérienne, pour l'essentiel, qui n'est pas l'armée des combattants, qui n'est pas l'armée des moudjahides des premiers, elle est l'arme au pied à la frontière marocaine, elle attend.
Tout à fait, c'est ça.
Mais là, je dirais que, comme on l'a dit, c'est une réalité historique, la guerre d'Algérie au sens militaire, elle est gagnée.
Elle est gagnée.
Simplement, politiquement, ça fait longtemps qu'on l'a perdue.
Absolument.
Au niveau international, la France, elle est mise à l'index du banc des nations civilisées. Donc c'est pas jouable. C'est fini, on le sait. Et donc, je dis... je parlais d'Harki. Pourquoi ? Parce que dans l'organisation de cette guerre, comme dans toute guerre, c'est l'histoire du poisson. Il faut priver le poisson de son milieu. Donc on a organisé des déplacements de population.
Tout à fait.
On a fait des regroupements de population, on a fait des zones interdites. Et donc ces déplacements de population, il faut encore une fois... Je dis les harkis, dans ces déplacements de population, on a organisé des groupes de goumiers, de défense, etc. Alors, quelles étaient les raisons de chacun
d'être choix, harkis, de l'engagement
Ce que la France a fait est une ignominie.
Ignominie,
on n'abandonne pas des gens, et on les a abandonnés, mais de façon délibérée. Et ceux qui sont rentrés, c'est parce que certains militaires, certains officiers ont outrepassé leurs ordres. Ont ramenés en dépit des ordres qui étaient de les laisser sur place.
Non, mais c'est la vérité.
C'est quelque chose de honteux.
Et c'est ce qui. C'est tout à fait. Moi, je sais que quand je discute avec des gens en Algérie qui ont participé à la révolution, ils me disent que ce qui est difficile pour eux, ce qui était difficile, c'est qu'on puisse mettre deux frères comme ça, un à côté de l'autre, parce qu'il y en a qui étaient dans les casernes, qui n'avaient pas le choix. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est une question après qu'il ait choisi ça ou ça ou ça. Mais il y en a d'autres aussi qui sont retrouvés à être supplétifs de l'armée parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et que les mecs qui ne voulaient pas déserter, ils avaient peur aussi. Parce qu'il y avait des représailles familiales et ainsi de suite et compagnie. Ah, c'était donc c'est le côté sale guerre un peu.
Il n'y a pas eu que ça.
Non, c'est un côté sale guerre.
C'est vraiment un moment où, encore une fois, tout est possible. Il n'y a pas de raison d'abandonner. Non, pas seulement... Je pense que, comme tu le disais, les règlements de compte, ils n'ont pas été simplement le fait des FLN qui s'en détraient. Comme il s'est passé en 1939-1945 chez nous, c'est-à-dire il y a eu des règlements de compte où il s'agissait simplement d'intérêt d'aller prendre la terre, la baraque ou le machin.
Absolument.
Mais dans c'est nous qui l'avons... Enfin, c'est la France qui l'a permis.
Tout à fait. C'est ça. Je me souviens aussi, une fois j'étais à Schlieff, dans un appartement d'Orléansville, j'étais dans un autobus et il y avait des vieux qui. Alors ils ont passé devant une ferme et puis il y a un vieux qui dit à l'autre ah, bah tiens, c'est un tel, l'ancien Moudjahid qui habite là. L'autre il lui a dit mais moi, je sais que c'est pas un ancien Moudjahid. Il était nulle part. Il n'était pas dans les réseaux de la 5e Moulaya ou de la 4e Moulaya. Ce mec-là, on sait pas d'où il est arrivé, il a pris la ferme. Donc ça existait, ils existaient aussi. On va écouter un peu de musique tranquille avec Rachid Tahar, l'album de Rachid Tahar.
Radio Collège rend hommage à son fondateur, Antoine Anton, disparu récemment, avec la rediffusion de l'émission Planète Black Music du 1er avril 2012.
Voilà, donc Antoine, le FLN, quand il travaille dans les années comme ça, 62, 63, enfin, pardon, 59, 60, 61, là, t'es au rang, tu travailles là, non? Tu travailles dans
tes... Oui, de toute façon, moi, j'ai été au rang depuis que je suis né, jusqu'à mon premier poste d'enseignant, donc à Flou, dans les confins de Haut-Plateau.
Ouais,
donc, 18 ans, donc j'ai passé 18 ans au rang.
Parce
que à cette époque-là, c'est pareil, on bouge pas.
C'est
pas comme maintenant. C'est-à-dire que
les transports, c'est
nos seuls voyages, nos seuls déplacements, c'est aller à la plage. Ça, quand on a fait 60 km, c'est le bout du monde. on vit en milieu. À cette époque-là, je ne connais de l'Algérie qu'au rang.
Un petit peu les alentours, Bousfer.
Même Alger, je sais pas. C'est la capitale, bien sûr. On est toujours en bisbille avec Alger parce que c'est la capitale. Mais bon, on ne connaît pas. Comme moi, la majorité des gens vivent comme ça. On vit autour. Donc je ne connais qu'Oran. D'ailleurs, ce qui, à la fois, je dirais par rapport à mon parcours et la compréhension de ce qui se passe, c'est pas bien parce que on est en milieu, je dirais, fermé. L'éducation, dont je parlais tout à l'heure, l'éducation, elle est franco-française. Moi, je me souviens que dans les livres de lecture, ça m'a toujours frappé. On fait les quatre saisons, c'est-à-dire qu'il y a l'automne. En Algérie, il y a un peu d'automne. Mais après, il y a l'hiver. Les lectures, c'est la neige, les machins. Après, il y a la chute. Enfin, des trucs qui sont totalement artificiels et collés. C'est la boutade de nos ancêtres les Gaulois. Mais c'est. Oui, ça illustre totalement la façon dont on apprend, dont on est éduqué, dont on se structure. Ensuite, l'information à cette époque-là, il n'y a que la presse écrite, il n'y a pas de télé ou c'est le début de la télé. La presse écrite et la radio. L'information que l'on reçoit, c'est une information qui est orienté.
Oui, tout à fait, surtout à l'époque.
Il y a bien des journaux, je dirais, progressistes, comme Algérie Républicaine, d'ailleurs, qui publie des chroniques, une partie des articles de Camus, qui très rapidement met le doigt sur une chose absolument insupportable, et sur justement ce qui va arriver si on y est, si on fait pas le nécessaire. Donc, je dirais qu'on est, dans un bain où l'Algérie est française.
Oui, tout à fait.
Et au niveau politique, tous les gouvernements, il n'y a pas un gouvernement jusqu'à De Gaulle et son virement, il n'y a pas un gouvernement qui soit socialiste, qui soit de droite, il n'y a pas un gouvernement qui remette en cause le fait que l'Algérie soit française. Donc tu nais là-dedans et tu vis là-dedans. Donc il y a des événements, il y a des trucs. Alors Oran est une ville qui est très peu touchée par le terrorisme.
Il y a
quelques attentats un peu, mais bon, on n'est pas véritablement touché. On continue à vivre de façon insouciante, un peu à l'écart, et avec l'idée qu'on est chez nous. Que ça restera chez nous. Mon premier choc, j'y faisais référence tout à l'heure, c'est je pars enseigner, donc à Flou, premier poste. Et là, d'un seul coup, j'ai un choc. C'est-à-dire que, passant d'une ville européanisée à un petit village aux confins des Hauts-Plateaux, je me dis, mais attends, ils sont en 100, on est deux. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce truc. C'est là où je commence à avoir espèce de me
vision
dire,
différente,
mais attends... C'est pas ce qu'on nous dit, pas ce qu'on a vécu, pas ce qu'on... Il y a un problème, ils sont chez eux, on n'est pas chez nous. Mais je te dis, il faut cette rupture.
Il faut cette rupture.
Sinon, on est embarqué dans une espèce... Alors, les milieux... Encore qu'à la maison, on avait quand même le privilège d'avoir un oncle qui était un ancien policier et qui avait très vite évolué vers le syndicalisme et qui avait pris des responsabilités syndicale est assez importante et qui très tôt nous a dit l'Algérie, c'est fini. Alors, tu imagines les discussions familiales. Ouais. Hein, mais il avait lui, le recul nécessaire à la vision, justement, de sortir un petit peu de ce... Enfin, voir autre chose que son nombril.
Et puis
voir qu'au niveau mondial, au niveau, comme je disais tout à l'heure, géopolitique, c'était fini. Et donc, on avait quand même ce petit doute dans notre famille. Il y avait des discussions, il y avait des accrochages, il y avait des échanges d'argumentation, mais on avait quelqu'un qui nous disait c'est pas ça. Je te dis, mais malgré tout, on était dans ce bain-là. Moi, j'aurais été nommé au rang pour mon premier poste d'enseignant. J'aurais pas pris conscience de cette réalité. Il n'y aurait pas eu cet oncle pour nous apporter un petit peu un regard extérieur.
Oui, tout à fait, absolument.
Je ne sais pas comment on aurait pris conscience.
Oui, parce que les gens ne bougeaient pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure au début. On ne bougeait pas, on restait. C'était d'abord une ville, c'était important. Et puis les populations étaient dans les grandes villes. Les populations d'origine française étaient effectivement dans les grandes villes. Mais c'est vrai que dans les douars, c'était autre chose. Ça se passait, c'était complètement. Les Algériens, ils avaient un contact avec l'administration qu'avec l'armée.
Oui.
C'était le seul contact qu'ils avaient.
Et avec les colons.
Ouais.
Et avec les colons, parce
l'agriculture.
La colonisation, c'est essentiellement d'abord c'est l'occupation des terres.
Oui, tout à fait.
Mais là encore, là aussi, on finit par le savoir. Mais moi, souvent, l'image perçue par les métropolitains des colons, c'est que les colons, comme on disait vulgairement, fusaient sur le Burnous. Quelques gros colons et qui en ont bien profité et qui faisaient suivre le Burnous.
Oui, parce que.
Il y avait des petits possédants qui vivaient un peu mieux que leurs ouvriers agricoles, mais guère mieux. Et il y avait un ensemble de populations. Moi, ma grand-mère faisait des ménages, ma mère a fait des ménages, mon père était simple ouvrier. Et comme ça, il y avait 98% de la population européenne qui était des petits blancs.
Oui, mais ça, c'était dans les villes surtout.
Et même, encore une fois, je dis, la grande colonisation, les grands domaines, il y en avait. Mais beaucoup sont restés des petits colons. Tu dis qu'ils vivaient peu mieux.
Oui, oui.
Un peu mieux que leurs ouvriers. Plus.
Voilà, moi je me souviens quand même quand j'allais en Algérie à l'époque, parce que nous allions en Algérie, on n'avait pas coupé, il n'y avait pas de rupture. C'était quand même assez particulier. J'avais un grand-père qui travaillait dans les vignes, qui avait fait 14-18. Il travaillait dans les vignes, il le pesait le matin et il le pesait le soir. On allait, on voyait, moi j'ai vu ça. Parce que ce que tu dis, c'est vrai, parce que la population française, algérienne qui vivait en France, c'était souvent des gens qui venaient du rural. C'était pas des gens qui venaient de la ville. Donc quand on allait retourner au pays pendant les vacances, on allait dans les villages, au bled, c'est vraiment le sens propre du terme. Et effectivement, la population française savait ça, déjà, algérienne. Puisque moi je me souviens, à La Rochelle, parce que pour ne pas citer, faut savoir ce qui s'est aussi passé des choses. Il y a des choses, il y avait des gens. Mon père était collecteur, donc tu sais ce que c'était.
Oui,
un collecteur. Il allait chercher de l'argent. Alors il avait un livret. C'est moi qui écrivais, donc je sais. Et ce livret-là, il servait. Si un tel avait travaillé pour ses enfants avec des difficultés financières. Il ne lui demandait pas sa cotisation. Bon, pour ceux qui étaient célibataires, ils faisaient un peu la fête parce qu'ils étaient comme tout le monde, c'était des êtres humains comme tout le monde, ils aimaient bien la fête. Et en même temps, il fallait qu'ils payent et ils savaient avoir ce juste d'art, il était respecté. Et je me souviens, maman, quand elle repassait les billets et qu'elle lui avait cousu ses pantalons en doublure, qui glissait et qui prenait le train jusqu'à Paris. Pour remettre l'argent, c'était quelque chose. C'était vraiment. Et je me souviens toujours, petite anecdote, je vais aussi te raconter très rapidement. J'avais juste en face chez moi le commissaire divisionnaire de La Rochelle. C'était un logement de fonction, il s'appelait le commissaire Olive, pour ceux qui se rappellent. Et un jour, la police couvre-feu, tu sais, vient, descend, comme partout, elle vient pour aller à la maison. Et je me souviens toujours, la femme de ce commissaire est sortie de chez elle. Elle a pu joindre son mari. Il avait, je me souviens, une 403. Il avait une grande antenne, donc il avait le téléphone. Il est arrivé. Et je me souviens, tout le temps, on était sur le pas de la porte. Mon père était très, très dur. Il disait, je ne vous laisserai pas rentrer. Et il leur disait. Et lui est arrivé en disant à ses hommes. Mais j'habite en face. Si Monsieur De Quiche avait des liens avec le FLN, est-ce que je ne serais pas le premier à le savoir? Tout le monde est reparti. On avait été un peu protégés parce qu'on n'avait pas de lien. Personne venait à la maison. Mais à La Rochelle, il y a aussi des gens. Je me souviens, des Français, des enseignants qui nous ont aidés. Je me rappelle aider mon père à prendre des billets de train. Ça. Vraiment, il y a eu un travail. Parce qu'il y a eu cette conscience. Que, comme tu dis, vous avez la tête un peu dans le guidon, vous, là-bas.
Oui, c'est ça. Encore que là-bas, je dis, il y a énormément. Enfin, il y avait des communistes, il y avait des socialistes, il y a des Européens ou des Français en Algérie qui se sont engagés. Et très tôt, et très vite, en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Cette conscience existait, mais encore une fois, c'est pareil. Elle était minoritaire, et comme souvent, sauf à avoir, je dirais, une conscience politique, elle ne voulait pas être entendue.
Oui, tout à fait,
c'est tout. Mais il y a très tôt, des Français d'Algérie ont pris parti pour, à la fois, au début, pour que les Algériens accèdent à la nationalité française, et aux mêmes droits. Et après, devant l'absence de réponse, se sont engagés. Ouais. Et il y en a qui ont payé ça de leur vie.
Oui, tout à fait. Il y a eu des exécutions, il y a eu des gens qui ont été condamnés, bien sûr. Mais c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, rien n'est marrant, mais on va trouver comme ça, d'un seul coup, des anciens résistants qui vont politiquement s'impliquer et qui vont être très très durs, et puis en même temps on va en trouver d'autres qui vont combattre ça. C'est assez particulier. Et puis il y a des gens comme Camus, tu l'as cité, qui eux sont outrés par les conditions et découvrent les conditions de vie. Il va même créer une école pour donner des cours aux enfants, quand même, à des enfants qui n'ont pas accès.
Oui, pas véritablement lui, mais les premiers grands reportages qui paraissent dans Algérie Républicaine, c'est un journal progressiste. La série, il faut la relire. Comme tout pied noir, puisque c'est le terme maintenant, moi j'ai une que je ne peux pas vivre sans Camus, mais que je trouve dans Camus les raisons de, à la fois, de mes engagements, ma compréhension du monde. Et quand je relis, parce que ça m'arrive assez régulièrement de relire Camus, quand on relit cette série d'articles algériens sur l'Algérie, sur la Kabylie, tout y est. Tout est dit.
Tout à fait,
il faut faire les efforts nécessaires. Et si cet effort avait été fait en temps voulu et de façon raisonnable, il y aurait peut-être eu une indépendance de l'Algérie.
Peut-être, sans doute, je pense, mais
dans des conditions
différentes, complètement.
Dans des conditions totalement différentes.
Mais absolument.
Comme les choses auraient pu et dû se passer.
Ouais, parce qu'il y a un embrasement quand même, on l'a cité, l'armée secrète, l'OAS, ça va loin, ça va même très très loin. C'est que, est-ce que ces gens-là ne sont pas sentis investis de dire on va devenir les chefs militaires d'une Algérie particulière, jusqu'au point à commettre des attentats? On ne peut pas les nier, puisque ça a été jusque le général de Gaulle, leur propre leader.
L'origine de l'OAS, avant d'être pied noir, parce qu'il y a eu des pieds noirs qui s'engagent dans l'OAS, puisque ça défend soi-disant l'Algérie française, mais l'OAS c'est l'armée,
et oui,
c'est
l'armée, non, mais c'est sûr, voilà,
et pour des raisons, là encore, si on regarde l'histoire, pour des raisons qui, du point de vue militaire, sont compréhensibles. L'armée est a perdu 39-45 en Indochine, en dépit de toutes les promesses on les met en Algérie en leur disant c'est une cause, c'est français, ils s'engagent, ils y vont, on leur fait des promesses, ils y croient, et d'un seul coup il y a tout qui bascule, du jour au lendemain. Donc il y a d'abord un mouvement de, je dirais, chez ces gens qui sont des militaires de père en fils, qui ont un sens du devoir, etc. Bon, on peut critiquer ça, mais il faut aussi essayer de comprendre. Ces gens-là, du jour au lendemain, ils se sont battus, on leur dit, vous êtes battus pour rien, vous êtes morts pour rien, on vous a menti. Et il y en a une partie qui supporte pas.
Ouais, ouais.
Et qui supporte pas et qui s'engage, entraînant avec elle,
ouais,
hein, une partie en, oui, de la population, sûr, et des jeunes de, pieds noirs, parce que on leur fait le drapeau français, le machin, l'Algérie française. Et donc il va s'engager une espèce de truc qui consomme définitivement la rupture. C'est, on parlait de rupture tout à l'heure, du débat. C'est la période OAS, plus que la période précédente.
Oui, tout à fait.
Parce que ça remet tout en question, y compris, on parlait des accords d'Évian tout à l'heure. Oui. Ces accords d'Évian prévoient ce qu'on appelait le GPRA, le gouvernement le provisoire de la République algérienne, avec notamment des progressistes, mais c'est pas ce qui va se passer.
Donc
la période OS consomme la rupture définitive, le GPRA ne pourra pas agir, et l'armée dont je parlais tout à l'heure, qui est à l'extérieur, rentre et prend le pouvoir. Ce qui fait que, et là ce serait une incise, mais je ne peux pas m'empêcher de dire, que que le peuple algérien était dépossédé de sa révolution.
Je sais très bien, on connaît, ils le savent, hein, pas croire à la jeunesse,
mais c'est... Je sais, il n'y a pas très longtemps qu'on en parlait encore.
On va s'accorder une petite interview musicale et puis on revient. برا برا النجوم
تفاطر كت الشمس. Radio Collège rend hommage à Antoine Anton suite à la disparition de celui-ci, fondateur de Radio Collège, avec la rediffusion d'une émission Planète Black Music du 1er avril 2012 à propos du cinquantenaire de l'indépendance algérienne.
Ah donc toi tu reviens donc retravailler parce que tu m'as dit que tu t'en vas avec ta famille victime de cette terreur de je rigole pas
mais
vous quittez parce que vous comprenez pas vraiment ce qui se passe.
J'ai dit 5 juillet on n'a pas l'intention de rentrer, personne dans la famille, et puis le 10 juillet on est sur les quais les uns après les autres pour prendre les bateaux. Alors on se retrouve, c'est rigolo parce qu'on se retrouve en France, mais là moi je dis pas je suis rentré en France, moi j'entre en France, je suis jamais venu sauf une fois en colonie.
Encore c'est pire que ça parce que toi tu n'allais même pas à Alger.
Donc
on
débarque à Marseille, les conditions d'accueil, alors certains disent que les conditions d'accueil n'ont pas été bonnes, d'autres c'est une expérience, chacun a sa propre expérience.
Non, on l'imagine, enfin,
le fait qu'on est là et que donc on est en France juillet, août et début septembre, on commence à se regarder, on dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Et on décide de retourner en Algérie faire la rentrée scolaire. Mon frère était enseignant, ma femme était enseignante, et on dit on prend l'avion et on rentre au Rhin. Et donc on prend l'avion et on rentre au Rhin. Et on arrive donc on arrive à Oran, et effectivement la ville a changé.
Oui, tout à fait.
La ville a changé.
En très peu de temps, quand est-ce que tu repars à Oran?
On rentre en septembre.
Ah bah d'accord, c'était en quelques mois.
On est venu en gros au moment des vacances, au moment de la rentrée scolaire, on est tous enseignants ou presque, dit on retourne, on va faire la rentrée. Et donc on rentre à Oran, l'ambiance est un peu différente, forcément, mais on rentre chez nous, on rentre dans nos appartements, la maison, et d'ailleurs ça c'est rigolo, enfin la maison de mes parents c'est deux pièces cuisine dans lesquelles on a vécu avec mes parents à 4 ans, donc c'est donc ma femme rentre chez elle, les parents de sa femme, mon frère, et puis on se présente à l'inspection académique en disant on nous accueille à bras ouverts, bien entendu, les enseignants sont partis, enfin les enseignants, les fonctionnaires, ce mouvement il n'a pas été anticipé, c'est-à-dire qu'il manque des cadres partout, donc on est accueilli à bras ouverts. On me dit vous étiez en dernier, moi j'étais à flou. Il dit, vous voulez pas être au Rhin? Bien sûr, je veux être au Rhin. Et on me nomme immédiatement au Rhin, ma femme au Rhin, etc. Et donc on fait la rentrée, la première rentrée en octobre, fin septembre 62, à Rhin.
Ouais, dans quel outil?
À l'école Aïssatidir. L'école Aïssatidir, ça se trouve dans un quartier que, s'il y a des pieds noirs et des oranais qui m'entendent, connaissent très bien, c'est le Petit Lac.
Petit Lac,
c'est donc l'école du Petit Lac. J'aurais demandé l'école Berthelot à la rue ou l'école à la rue d'Argeux.
Tu l'aurais eu.
On me l'aurait donné.
Oui, oui, il y avait un besoin.
Donc, ça manquait. Il y avait pratiquement personne pour faire la rentrée. Des enseignants algériens des instituts, il y en avait quelques-uns, mais comme on le disait tout à l'heure, il n'y en avait pas des masses.
Oui.
Donc, on a été accueillis à bras ouverts. Le jour de la rentrée, il y a quelques gamins qui nous ont balancé quelques cailloux. Ils avaient l'habitude de balancer des cailloux, surtout ce qui ressemblait. Et immédiatement, il y a eu une intervention. Et ça a été fini. On a vécu de façon.
Donc, combien d'années comme ça après l'indépendance, après
son On y est rentré de 62, donc jusqu'en 71. Donc, 9 ans après l'indépendance.
Donc tu as traversé le régime Ben Bella et Boumediene.
Ben Bella et Boumediene. Ben Bella a été. C'est rigolo. Et Ben Bella vient au rang parce que c'est un passionné de foot. Il y avait un match Algérie-Brésil. Oui. Il vient comme président et il repart. Pendant qu'il était au rang, il y a Boumediene.
Tout à fait.
Il l'avait viré.
Parce qu'il est Tlemcen, donc il est juste à côté. Il vit à Tlemcen encore. Ben Bella, il a été un peu malade.
Ben Bella est un des, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des acteurs historiques, un des, des historiques de la révolution algérienne. Et Boumediene, lui, c'était le chef de, le chef de l'armée du Maroc. Donc on y est resté 9 ans. On est rentré, alors non pas. On est rentré parce que on a eu nos enfants là-bas, mes deux enfants sont nés à Oran. Et puis à un certain moment, il a fallu quand même, on a réfléchi, on s'est dit quelle éducation on va t'en donner. D'autant que l'évolution, là on se sent. On a beau dire, si tu veux, on est à la fois très proches, mais au niveau culture, on a des cultures différentes. Donc progressivement, et c'est tout à fait normal, on vivait de plus en plus dans une culture différente. Et donc, c'est vrai que paradoxalement, si en 62 je me sentais pas totalement différent, en 70-71, 9 ans après, je voyais des différences culturelles et sociales.
D'autant plus que toi, tu es à l'époque, puisqu'en 73, le bac, Boumediene va décider que le bac soit arabisé.
Il y a eu ça aussi, mais c'est pas
non, mais
essentiel.
C'est la période, parce que moi je suis allé à cette période.
C'est vrai qu'il y a eu un phénomène d'arabisation. On n'enseignait plus le français que quelques heures par jour.
Tout à fait.
Mais c'est pas, ça n'a pas été essentiel dans ma détermination.
Non, d'accord.
Même si progressivement on avait de moins en moins besoin d'instituteurs français, de professeurs, ensuite plus d'universitaires dans les cadres de la coopération. Mais bon, la raison un petit peu de notre départ, ça a été plus pour les enfants. Dans quel type de culture, à quel
comment les
amener, tout à fait. On est rentré pour ça. Mais on y est retourné.
Oui, voilà. Donc je disais, il reste quelques minutes. Il y a eu ce de nouveau. Tu es retourné en
2005.
C'est récent. Donc tu as retrouvé des gens que tu connaissais, entre des élèves et des voisins.
C'est eux qui m'ont retrouvé. c'est vrai que c'est les élèves qui m'ont retrouvé. C'était un truc assez extraordinaire. Mais j'y suis retourné avec un plaisir.
Oui, bien sûr.
Infini. Et puis l'accueil qu'on y a, et puis les gens sont extraordinaires, comme partout, faut pas non plus. Mais quand j'entends parfois certains commentaires sur l'Algérie et sur la façon dont certains d'entre nous ont encore ce regard nostalgique, comme dit maintenant, mais un peu. Mais bon, qu'ils y retournent. Et qu'ils
ils y retournent de plus
sans
en plus.
Sans appréhension, sans préjugés, puis c'est un pays merveilleux, un pays merveilleux, et c'est des gens extraordinaires.
Mais là, les gens commencent à y retourner, je trouve ça très très bien, et de plus en plus, et c'est une destination qui est de plus en plus prisée pour les gens qui veulent retourner voir justement toutes ces traces, toutes les traces qui sont les écoles, leurs quartiers, parce que des fois ça n'a pas beaucoup changé.
Moi j'ai retrouvé Oran tel que je connaissais n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le développement extraordinaire de l'urbanisation autour. La population, je ne sais pas de quelle ordre de grandeur, il y a 9 millions, je ne sais plus combien ils sont.
Maintenant ils ont 15 ou 16 millions, c'est quelque chose.
Même plus. Ouais. Donc il y a un phénomène d'urbanisation tout autour des villes. Ouais. La ville d'Oran n'a pas changé, les paysages sont les mêmes. Tout autour, ça s'est urbanisé, et pour d'autres raisons que tu connais aussi bien que moi, et dont on n'aura pas le temps de parler ici, c'est qu'il y a eu en Algérie aussi une période où les de fait, beaucoup de villages ont été vidés et les gens sont venus vers les villes.
Ouais, ça, c'est la période 1990-2000, quoi. Voilà. C'est une période terrible en Algérie, d'ailleurs.
Terrible, absolument.
Juste comme ça, bon, on va arriver à la fin. On aura peut-être l'occasion d'en refaire un jour encore et encore. De toute façon, il y a le 5 juillet, peut-être qu'on sera une émission encore. Et juste pour dire comme ça, il y a un petit clin d'œil qui est quand même très important. Tu viens de le citer, c'est 1990-2000, beaucoup de morts en Algérie, une guerre fratricide. Alors justement, juste comme ça, pour un petit clin d'œil, ce sont les salafistes qui vont être activistes en Algérie. Absolument. Et ce sont les salafistes, comme le jeune homme là, qui a commis une exaction dans cette école, qui est atroce, et y compris aussi sur les soldats du contingent qui sont des jeunes gens. C'est ces gens-là qui ont tué en Algérie, qui ont tué des Algériens. Et ça a été quelque chose, hein, ça n'a pas été le même nombre de morts que les guerres d'Algérie.
Hein. Absolument, c'est quelque chose qu'on a un peu occulté, mais qui a été terrible. Et la chose effectivement, quand je suis retourné au rang, qui m'a aussi bouleversé et saisi, qui est visible, c'est effectivement cet impact de cette guerre fratricide, innommable, et comme d'habitude, conduite par des fanatiques.
C'était terrible. Je vais juste te dire comme ça qu'il faut bien savoir que l'islam sunnite ne cautionne pas et ne peut pas cautionner ça, puisque de toute façon, on en a vécu et des séquelles énormes de 1990 à 2000, où l'Algérie s'est retrouvée toute seule et a lutté toute seule contre ça. Et je peux vous dire, j'y allais, donc je sais très bien. Je savais pas si mon voisin il me regardait comme ça par hasard, ou s'il me regardait qu'il était, et si c'était pas un intégriste. J'avais vraiment peur. Tout le monde a eu peur. Ils ont terrorisé tout le monde en Algérie. Donc on peut pas cautionner ça. Vous comprenez que l'islam cautionne en tout cas pas ça. Et là, en tout cas, les Algériens, sans parler de religion, ne cautionnent surtout pas ce qui s'est passé, parce que c'est antinomique avec vraiment à ce qu'ils pourraient penser de ces intégristes salafistes que l'on voit poindre partout en Libye, que l'on voit poindre en Égypte, au Maroc et en Tunisie.
Absolument.
Voilà. Donc juste pour se dire comme ça à très bientôt, c'était une histoire personnelle surtout, hein. On n'est pas dans un débat très spécifique, historique, mais quand même l'histoire se fait par les gens qui parlent et les gens qui l'ont vécu. Voilà, à très très bientôt sur les ondes de 95.9. Antoine, à bientôt.
À bientôt et merci Ben.
Voilà, et puis Thierry, je vous souhaite une bonne soirée. Je le vois, il est là-bas, il fait des guili-guili.
C'était la rediffusion de l'émission Planète Black Music du 1er avril 2012 à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance algérienne. Une émission de Ben de Quiche préparée par Thierry Lecoq. Et l'invité était Antoine Anton, fondateur de Radio Collège et lui-même algérien de naissance. Toutes nos pensées vont à sa famille. Un grand homme du paysage radiophonique rochelais vient de disparaître.